Arcade. Match play. Versus match.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong. C'est sur France Culture.
Aujourd'hui, Ping Pong avec Pierre Ginet et Gigi Riva, le foot devient à la fois un jeu et une guerre. Pierre Ginet.
Et l'un des jours où ce sport de gentleman s'est retrouvé annonciateur de barbarie, eh bien c'était le 30 juin 1990.
Le premier quart de finale oppose le 30 juin à Florence, l'Argentine de Diego Maradona, à la Yougoslavie de Safet Susic. Susic qui se procure la première occasion du match, mais Goygoechea sort parfaitement dans ses pieds. Comme le symbole de ce mondial italien, cette rencontre est fermée, sans but. Peu d'action, mais beaucoup de cartons, 4 jaunes et un rouge. La Yougoslavie a d'ailleurs le mérite de jouer 90 minutes à 10. La rencontre va se jouer au tir au but. Dragan Stojkovic tire sur la transversale. Ivković, le gardien yougoslave, remet ensuite les deux équipes à égalité en stoppant le tir de Diego Maradona. Mais l'Argentin de cette Coupe du Monde est un gardien évoluant seulement en D2 française. Il s'appelle Sergio Goygoechea, il qualifie l'Argentine pour les demi-finales.
Gigi Riva, l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est bien connu, et dans ce résumé du quart de finale de la Coupe du Monde 1990, entre l'Argentine et la Yougoslavie, le journaliste Christian Jean-Pierre oublie donc naturellement de mentionner l'homme par qui la défaite est arrivée et le sort d'effet papillon, ou plutôt la déflagration que son pénalty manqué, le dernier pénalty, a provoqué, ou peut-être tout simplement symbolisé. Est-ce que vous, à votre tour, vous pourriez, comme vous le faites dans votre essai donc publié au Seuil, le dernier pénalty, histoire de football et de guerre, nous résumer cette poignée de secondes à la fin de ce quart de finale et ce qu'il allait annoncer?
Oui. Alors, il faut avoir une vision claire de la scène qui s'était cette jour-là. Dans la tribune, il y avait Henry Kissinger. C'était le vieux secrétaire d'État des États-Unis qui était là comme journaliste, et il a écrit sur un papier pour le Los Angeles Times, où il a dit « Je vois que ici en Italie, cette Coupe du Monde représente le début du nouveau nationalisme en Europe. » Bon, cet nouveau nationalisme était représenté sur le terrain par un joueur qui est Farouk Hadžibegić, qui est le protagoniste de mon livre, qui était yougoslave, yougoslaviste et sarajevien. C'est-à-dire, il était un type qui croyait absolument dans la Yougoslavie unie, tandis que la Yougoslavie, dans ce moment, était en phase d'implosion, parce que les républiques sécessionnistes de Croatie et de Slovénie, ils avaient déjà demandé de quitter la fédération. Alors, Hadžibegić, il va pour tirer le tir au but fondamental, et il manque ce tir au but. Et qu'est-ce qu'il se passe dans le pays? Dans le pays, il se passe que les plus importants politiciens des différentes républiques, ils sont contents. Ils sont contents parce que la Yougoslavie unie était représentée par cette équipe qui était pressée par toutes les questions nationales qui avaient commencé à se dérouler après la mort de Tito, 10 ans avant. Mais la Yougoslavie, une équipe yougoslave, selon les Croates, selon les Slovènes, c'était fini. On pouvait pas l'avoir encore. Et Hadžibegić, il a incarné un destin politique, même s'il était absolument contre cette destin. C'est pour ça que mon livre, c'est aussi une histoire d'un homme qui a sur ses épaules un problème, si vous voulez, historique.
Ce soir, c'est France-Albanie, l'Albanie voisine du Monténégro, hein, pays de l'ex-Yougoslavie. 26 ans plus tard, la Croatie est le seul pays de l'ex-Yougoslavie qui est qualifié pour l'Euro 2016. Quel regard vous portez, Gigi Riva, sur les clubs de ces pays de l'ex-Yougoslavie aujourd'hui? Et est-ce que vous considérez le ballon rond comme révélateur d'une nouvelle montée des nationalismes?
Mais bien sûr, vous avez cité l'Albanie qui joue ce soir contre la France. Et je me rappelle, il y a 2 ans, 3 ans, pas plus que ça, il y a eu un match de football à Belgrade entre les Serbes et les Albanais où a été utilisé un drone pour porter une bandière albanaise sur le terrain à Belgrade comme une provocation anti-serbe pour le problème du Kosovo. C'est-à-dire que dans les Balkans, le football est une continuation de la guerre, ou si vous voulez, c'est un commencement d'une possible guerre. Et même aujourd'hui, toutes les tensions qu'il y en a entre, parce que c'est pas absolument, la situation dans les Balkans, c'est pas absolument calme. On a le problème de la République serbe de Bosnie, on a le problème du Kosovo, et du statut du Kosovo avec la Serbie. Et toutes les occasions où il y a des rencontres de football entre les différentes équipes de la Yougoslavie, ce qui s'est passé il y a 25 ans, c'est encore très vivant.
Didier Riva, on l'entend, vous connaissez très bien ces Balkans, puisque vous êtes un ancien grand reporter qui avait sillonné ces espaces, et d'où votre expérience et ce qu'on sent voilà, dans votre voyage aux côtés de Hadji Bezic pour cet essai, le dernier pénalty, votre connaissance du terrain. Mais vous êtes aussi, Mathilde le rappelait, un fou de football. Ouais. Vous êtes l'homonyme, Mathilde le disait aussi, de ce Didier Riva, de légende dans l'histoire du football italien.
Un goleador.
Oui, un goleador. Oui.
Et précisément, au-delà peut-être des Balkans d'hier et d'aujourd'hui, dans votre essai, on voit les prodromes, l'embrasement du conflit en ex-Yougoslavie depuis les stades, depuis la pelouse, avec les mauvais gestes, mais aussi dans les virages, où en effet les supporters ultra vont devenir les miliciens, les paramilitaires des différentes guerres. En quoi est-ce que le terrain de foot, donc que ce soit dans les Balkans, ou ici, ou en Italie, que vous connaissez bien, puisque vous êtes aujourd'hui rédac-chef de l'Espresso, les virages, la pelouse sont des bons postes d'observation, à la fois pour regarder et pour comprendre le monde?
Absolument. Je parlais après la guerre avec plusieurs experts des Balkans, avec plusieurs habitants des Balkans, et ils m'ont dit, vous savez Gigi, les personnes qui avaient compris tous avant nous qui étions les bien éduqués, les intellectuaux, tout ça, étaient les personnes du stade, c'est celui qui les hooligans des Balkans. C'est pas par hasard que on peut le voir même sur Internet il y a au stade Maksimir de Zagreb.
Maksimir qui veut dire la paix maximum.
Oui, la paix maximum. Voilà une target qui dit aux zéro supporters de la Dinamo Zagreb qui ont commencé ici dans cet stade la guerre contre la Serbie. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai 1990, c'est-à-dire un mois et demi avant le tir au but de Hadži Bečić? Il s'est passé qu'il y avait un match de football, Dinamo Zagabria, Dinamo Zagreb, c'est-à-dire les Croates, et Étoile Rouge Belgrade, et pratiquement les extrémistes des deux côtés, ils ont fait les épreuves générales de la guerre au stade de Zagreb. Et vous savez qui était celui qui se promenait au bord du stade comme un général devant ses troupes?
Milosevic?
Il s'appelait Arkan. Voilà.
Le tigre.
Avec ses tigres. Et presque tous les miliciens d'Arkan, qui c'était le champion du nettoyance ethnique, et qui après ça, il a été tué dans l'an 2000 parce qu'il savait trop. Peut-être, ils étaient presque tous, ces miliciens, ils étaient presque tous des hommes de stade. Et de l'autre côté, un an après cet épisode à Zagreb, les supporters de la Étoile Rouge et les supporters de la Dinamo Zagreb se retrouveront à Vukovar, la Stalingrad croate, sur les deux côtés, mais pas seulement avec des couteaux ou quelque chose comme ça.
Des barres de fer.
Oui, mais avec les pistolets. Oui, avec les pistolets et les Kalachnikov.
Gigi Riva, on l'entend, se fait historien du foot et de la guerre des Balkans. Dans le même mouvement, vous, Pierre Giner, le plasticien, vous jouez aussi l'historien sur une histoire plus légère, celle des jeux vidéo, avec cette installation Soccer Party Club dans le cadre de Foot Foren, la manifestation artistico-sportive qui se déroule à la Villette à Paris. C'est vrai que, et Martin l'a dit tout à l'heure, vous avez décidé de faire de cette installation un monument jouable à la mémoire des jeux vidéo oubliés, tombés dans l'anonymat. En quoi, effectivement, vous avez eu une démarche d'historien pour cette installation et de devoir de mémoire?
Ben, comme pour le foot, le jeu vidéo, c'est aussi une culture populaire. Alors, je sais pas, d'ailleurs, je me demandais si c'était une scène aussi grave du monde. Mais peut-être, ça vaudrait le coup. En tout cas, pas sur le foot, je pense. Mais, j'ai voulu rejouer d'anciens jeux. Voilà, d'anciens jeux. Parce que il y a tout un patrimoine du jeu vidéo qui est, comme le cinéma, son patrimoine. Il y a aussi des cinéphiles du jeu vidéo, finalement. Et là, il s'agissait de se dire, Comment on ferait d'abord une sorte d'objet forain dans le cadre de cet événement? Parce que le jeu vidéo, c'est un objet forain. On sait toujours pas bien à quoi ça sert. Ça peut servir à endoctriner, ça peut servir à entraîner, ça peut servir à jouer, ça peut servir à raconter des histoires, ça peut servir à dessiner. Et moi, j'ai juste produit une sorte de très grande arcade, parce que dans le jeu vidéo aussi, il y a deux directions. Il y a la dimension simulation, puis il y a la dimension arcade, c'est-à-dire du jeu pur, du jeu de l'amusement. Et c'est une très grande arcade remplie de jeux vidéo, depuis leur début, qui dessine ce que devient désormais ce terrain qu'on connaît dans FIFA, ultra réaliste, mais qui commence par le dessiner un peu comme un baby-foot, et puis qui augmente...
C'est une histoire de l'art du jeu vidéo du
foot. Voilà, il y a une sorte d'histoire de l'art visuel du jeu vidéo du foot. Et puis, chacun vient y jouer, chacun anime ses jeux, enfin les joue, quoi, tout simplement. Et en les jouant, reconstitue une pièce d'un grand Pulse qui fabrique une sorte de grand terrain de foot. Il y a un terrain où des jeux sont projetés, des jeux vus du dessus, où des lignes se déplacent, des joueurs aussi se déplacent, il y a des cages, et il y a une mosaïque, et puis il y a un commentateur.
Il y a Gigi Riva justement qui
pour veut un commentaire,
non,
ou
le commentateur.
Une expérience
c'est
de joueur.
C'est bien ce qu'il fait, parce que c'est la dimension innocente du football. Le football est commencé, quand le football a commencé, c'est un jeu innocent, bien sûr. Et c'est la politique qui l'a transformé, mais pas seulement il y a 25 ans, même aujourd'hui. Même en Italie, par exemple, dans le 34, le 38, quand le régime de Mussolini a utilisé la victoire au championnat du monde pour la glorification de l'Empire, du nouveau Empire, où vous pouvez penser, par exemple, aux généraux argentins dans le 78, quand ils ont gagné le championnat du monde en Argentine, et c'était la glorification du régime militaire qui avait 30 000 desaparecidos au-dessous de la ville de Buenos Aires. Alors, il y a toujours une connexion. Alors, on peut dire, moi j'aime le football. Je pense que Pierre aussi aime le football. Je pense que beaucoup de ceux qui...
Le réel et le virtuel, ouais. Hein, Pierre Ginelle,
ouais.
Les deux.
Mais le football a pris une dimension tellement populaire. Et si quelqu'un veut véhiculer un message, il peut l'utiliser comme il veut. Alors, le football, c'est innocent, mais ceux qui l'utilisent, non, ils ne sont pas innocents.
La narration par le médium du jeu vidéo comme à travers le médium du roman ou de la cinématographie, évidemment, peut devenir une narration orientée comme il y a eu des arts comme ça soumis à la doctrine. Évidemment, on va revenir sur la dimension narrative du jeu vidéo puisque vous en fabriquez aussi, Pierre Ginelle, en plus d'être archéologue historien du jeu vidéo. Est-ce que justement, on pourrait se balader dans cette histoire du jeu vidéo? Je vous propose de les écouter. Vous allez nous dire ce que c'est, ce que ça représente. C'est parti, premier extrait.
C'est 8 bits, c'est ce que l'ordinateur. Alors, une des définitions du jeu vidéo que j'aime beaucoup, c'est Bechnel qui l'a dit, c'est l'inventeur de Pong. Et il dit, c'est s'amuser à faire. Enfin. Alors attendez, j'essaye de la retrouver malheureusement parce qu'elle est très belle.
Pendant ce temps-là, je précise que Pong, c'était ce petit pixel blanc qui se baladait d'un côté et de l'autre de l'écran noir, le premier jeu vidéo.
Oui, et l'enjeu c'est quand même de s'amuser à faire des choses amusantes aux ordinateurs. Et en fait, une manière de détourner et de justement faire de la musique avec des sons qui sont juste des sons d'alerte ou du code. Mais peu à peu, c'est aussi dessiner, c'est aussi... Enfin, moi c'est cette histoire qui m'intéresse, c'est de ce... Premier objet qui est un objet de calcul, qu'est-ce qu'on lui fait faire? C'est une question exactement comme le cinéma a été confronté à la même question quand les frères Lumière disaient le cinéma est une invention sans avenir finalement. Et ce qui est intéressant, c'est l'avenir qui a été produit par les cinéastes eux-mêmes en trafiquant et la pellicule, la lumière, les objectifs et aussi les premiers acteurs qu'on voit tout de suite chez les frères Lumière. Et dans le jeu vidéo, il y a la même chose. C'est-à-dire que le premier jeu vidéo, c'est un jeu de balistique. Et c'est un jeu de laboratoire, d'ailleurs, qui sert à lancer des missiles et à calculer des trajectoires. Ça devient un jeu pour une visite, un instant public de visite de laboratoire, où on lance et on voit ce très beau dessin. Et après, il y a une interprétation du dessin. Et ce dessin, ça va soit vers le jeu, justement, de SF, finalement, envoyer des... tirer des balles aussi, mais envoyer des missiles dans l'espace, des vaisseaux, voilà. Et de l'autre côté, c'est Pong, et qui se met à... Et en fait, c'est pas envoyer, c'est rattraper finalement la balle et la relancer. Et c'est marrant parce que c'est, il y a autour des techniques, autour des images, toujours une sorte de double aspect, deux faces, et l'utilisation diabolique et le merveilleux et la naïveté. Bon, moi, en fait, les deux aspects m'intéressent. Dans cette exposition, il s'agit plutôt du merveilleux.
On a entendu un extrait de Kick-Off 1991. Deuxième extrait. Pierre Giner, qu'est-ce qu'on écoute ?
Ah, alors ça, je ne savais pas vous le dire, je suis désolé.
Super Soccer.
Ah ben voilà. Alors, le truc qui est intéressant, qu'on voit au travers justement de ces bandes son, c'est cette évolution et ce codage ou ce décodage de cette représentation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, effectivement, rentre la musique, alors qu'avant c'était quand même du son, et du son qui était musical bien sûr, et de la rythmique qui venait combler un vide, et puis peu à peu ça devient de la musique, après il y aura du commentaire, et des ambiances, il y aura le son des ballons, enfin, et tout au travers de cette installation, on voit ça, c'est-à-dire, enfin, c'est ce qui la nourrit, on voit cette construction progressive, et nous-mêmes on a utilisé et les jeux, et les sons extraits des jeux, joués en direct par les joueurs, pour refabriquer une plus grande bande sonore, enfin une sorte d'enveloppe, auquel du milieu, comme si on était au milieu du jeu vidéo.
C'est un petit peu à l'envers, peut-être, sur les stades et dans la grande histoire que vous nous racontez, DJ Riva, à propos de cette guerre des Balkans, ces guerres dans l'ex-Yougoslavie, dans votre essai Le Dernier Penalty. On a au départ le bruit des ballons, du pied contre le cuir de la balle, et puis on a les chants, on a la musique, on a les chants de supporters, on a ce fameux hymne national.
En plus, oui, mais quelque chose en plus même aussi. Parce que Pierre, il a dit du cinéma. Le cinéma, je pense que c'est encore plus important dans notre culture occidentale parce que c'est l'imaginaire. C'est la colonisation de notre imaginaire. Et c'est pas par hasard qu'un grand directeur, metteur en scène yougoslave, je pense à Emir Kusturica, il a mis en scène un match de football qui est fini en tragédie dans une de ses films. Et c'est pour ça la force évocatrice du sport. Elle passe aussi à travers les images de Kusturica. Elle passe aussi à travers tout ce que vous avez dit. Mais le problème, c'est que même si on a une histoire devant, qui est une histoire sanglante, et où le sport a été utilisé, mais où même les sportifs ont été utilisés. Je pense par exemple à un grand champion du ballon qui s'appelle Boban. Il a joué en Italie et pas en France, mais je pense qu'il est populaire aussi en France, qu'il était devenu le testimonial de Tudjman de la campagne électorale. Je pense au pauvre Drazen Petrovic, le joueur de basketball qui est mort dans un accident de la rue en Allemagne. Lui aussi, il a été utilisé par les nationalistes. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui. Et toutes les fois, quand j'écris ce livre, je pensais que rien n'a changé. Rien n'a changé parce que quand je vois que l'État islamique, par exemple, le soi-disant État islamique, parce qu'ils n'ont pas un État, ils n'ont pas le droit de l'appeler un État, ils vont tuer 14 personnes qui sont en train de regarder un match de football du Real Madrid, tout près de Bagdad. Je pense que ceux qui ils ont empêché de jouer au football aux garçons qui habitent dans le territoire du soi-disant État islamique. Je pense que la chose qu'ils veulent détruire, c'est l'imaginaire occidental, parce que l'imaginaire occidental c'est absolument attractif, même pour les jeunes arabes. Et pourquoi l'État islamique veut c'est le football, le cible de l'État islamique. C'est parce que le football c'est une part importante de notre identité. Ou c'est vécu comme ça, sûrement dans tous les endroits du monde. Quand je vois l'État islamique qui commence malheureusement le 13 novembre de Paris à l'État de France, c'est le même symbole qu'ils veulent détruire. Et alors je me dis attention. C'est pas seulement un sport, il faut l'utiliser et l'utiliser avec beaucoup de calme et beaucoup de patience.
si ça s'utilise pour la tyrannie du soi-disant État islamique, pour reprendre vos mots, Didier Riva, c'est aussi une arme de résistance. Quand vous parlez d'images, on peut revoir cette scène merveilleuse de Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, qui a eu le César du meilleur film. C'était en 2015. On a une partie de football imaginaire, avec un ballon imaginaire. Timbuktu est tombé aux mains des fondamentalistes islamistes et eux n'ont plus le droit de jouer au football. Il y a des gens qui font des rondes en moto pour être sûrs et ils vont résister avec cette partie de foot sans ballon.
Attention, le football et la musique. Parce que même la musique, le rock, la musique occidentale, on ne peut pas l'écouter dans tous les pays où est arrivé Daesh, c'est-à-dire le soi-disant État islamique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un jeu, attention, ce n'est pas seulement un jeu. Il faut calculer que derrière ce jeu, il y a beaucoup des intérêts économiques, mais ça nous savons, bien sûr, en France aussi, avec le Paris Saint-Germain qui a pris tous ses pouvoirs, avec le Qatar qui a sponsorisé le club et tout ça, et blablabla. Mais c'est toujours un jeu même géopolitique. Imaginez combien de géopolitiques il y a, par exemple, dans ces championnats d'Europe en France en ce moment. On a eu des problèmes quand la Russie a joué avec... Et là, il s'agitait des hooligans. Mais on a vu,
avec l'Angleterre.
Oui, on a vu des Russes qui étaient organisés militairement, exactement comme les troupes de Arkan il y a 26 ans.
Oui, vous parlez de géopolitique, on peut penser à la fameuse phrase du géopoliticien français Lacoste, qui disait que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Alors peut-être que le football, ça sert d'abord à faire la guerre ou aussi à faire la guerre. On peut penser à la même chose du jeu vidéo, on le reproche très souvent aux jeux vidéo, notamment les jeux vidéo de guerre qui ont tellement de succès auprès des jeunes, même s'ils ont moins de 18 ans et qu'il leur est interdit de jouer à certains jeux. Pourtant, Pierre Giner, le foot, c'est aussi un élément de cohésion, même de convivialité. Alors, le jeu vidéo où on joue un par un, a priori, séparés les uns des autres, en particulier dans la façon que vous avez de le mettre en scène dans votre soccer foot party.
C'est à peu près ça. Club, soccer party club.
Soccer party club, pardon.
Un club de joueurs idéal.
Voilà, votre idée, c'est justement de montrer que le jeu vidéo est aussi facteur d'unité, de rassemblement, de rencontre.
Moi, je pense qu'on ne peut pas rendre le jeu vidéo ou le football complètement responsable. Par contre, il est instrumentalisé. Voilà. Et alors, soit il est le lieu d'une expression et d'une construction, d'une rencontre aussi, d'une passion, de rencontre de passion. Et puis en même temps, et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, et qui est diabolique, il est instrumentalisé. Pour le jeu vidéo, c'est frappant, on parlait de guerre. C'est Haroun Farouki qui a très bien montré ça, l'artiste allemand, comment l'armée américaine recrute, forme, et maintenant prépare, au travers du jeu vidéo. Alors bien sûr, comme le foot, d'ailleurs, c'est sans doute un jeu d'entraînement. C'est-à-dire, cette façon, ça donne de la force, de l'acuité, de la performance. Alors c'est pour ça qu'on va sans doute y chercher des hommes de main. Voilà,
possible. Didier Riva.
Oui, non.
Et de l'autre côté, c'est aussi une immense joie et quand même une place publique très importante. Et ce qui est étonnant, c'est que chacun puisse s'y adonner librement et que ça puisse
être insupportable. Et justement, on peut souligner. À certains.
Oui, peut-être oui, parce que ça unit et qu'il n'y a rien de pire que l'union, on va dire, dans une situation comme ça de terreur. Je voudrais pas reprendre les mots de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, surtout, attention. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette unité possible par le football, dans votre travail, Pierre Giner, c'est que vous avez voulu que ceux qui jouent comme ceux qui ne jouent pas soient intégrés à l'installation. C'est-à-dire que qu'on se balade et qu'on ait eu envie d'attraper les manettes ou qu'on n'ait pas envie, on va être dans la même immersion.
Mais parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le joueur. En fait, c'est pas tout à fait... C'est lui qui est à l'origine du dispositif. D'une certaine manière, c'est lui qui l'anime. Après, ce qui est important, c'est les images. Et puis, ce qui est important pour rattraper ces sujets du jeu vidéo, c'est de les remettre en cause. C'est justement de les sortir de ce clivage, de cet affrontement entre l'opium du peuple d'un côté et puis la fête foraine. Bon, c'est tellement... Simple. En fait, c'est sans doute beaucoup plus que ça. Si des gens y restent, si des gens le pratiquent, si des gens, habitent ce sujet, parce que les jeux vidéo, c'est pratiqué des journées entières. Comme le foot, ça peut être joué toutes les nuits. Enfin, moi, en ce moment, en dessous de chez moi, il y a des gens qui jouent au foot dans la rue toutes les nuits. Ben, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et cette passion-là, pour pouvoir la réouvrir, il faut la rendre publique. Et pour la rendre publique, il faut fabriquer sa place, justement, et voir le joueur en train de jouer, que le joueur lui-même soit à son activité, et qu'en même temps, il participe à quelque chose d'autre.
À la Villette, on est vu en train de jouer, on peut voir d'autres joueurs, parce que les écrans sont à la grande échelle, en fait.
Voilà, donc ceux qui jouent dans les tribunes, parce qu'il y a des tribunes d'un terrain, et des buts, et des... sont en train de construire ce terrain. Au travers de leurs propres images qui sont juste dupliquées d'un ordinateur à un vidéoprojecteur et qui construisent ce monument.
Didi Riva, si à l'instant Pierre Giner nous propose d'inventer, d'imaginer justement une nouvelle façon de vivre ensemble et de jouer au foot ensemble à travers son monument, son installation vidéoludique, vous aussi dans les dernières pages de votre essai, vous inventez un autre passé et donc un autre avenir possible pour la Yougoslavie avec une sorte d'utopie.
Oui, l'utopie c'était qu'est-ce qui serait passé si... Farouk Hadjibeji aurait marqué le tir au but. Bah, c'est évident. Bah, c'est, ma opinion,
en 1990, hein, rappelons-le, oui, contre l'Argentine.
Mon opinion, c'est que la guerre aurait éclaté, en tout cas, c'est clair. Mais le problème, c'est que dans les Balkans, il y a beaucoup de personnes. Farouk, dans le livre, il me dit 90% des personnes qu'il rencontre dans les Balkans, il lui dit « Oh, si tu aurais marqué cette... » Peut-être on n'aurait pas eu la guerre. Mais quand on a parlé avant d'unité, je me suis rappelé d'une chose que peut-être c'est très jolie. J'ai passé, pour ma carrière professionnelle, 11 années en guerre, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Et quand il y a eu des situations un peu difficiles, dire le mot, pour moi italien, Totti, ou dire le mot Baggio, c'était créé autour de moi tout de suite une sorte de sympathie qui a un peu calmé la situation. J'ai vu, par exemple, la demi-finale du championnat du monde de 2006. Celle que l'Italie a gagnée.
Oui, c'est gentil de nous le rappeler. Ouais, merci.
Non, mais c'était la demi-finale, c'était pas la finale. À Gaza.
Attendez, c'est une bonne information quand même à prendre. Hein, il faut...
Je l'ai vu à Gaza. Dans une place où il y avait beaucoup de militants de Hamas, qu'ils regardaient un peu les journalistes comme ça, mais quand on a commencé à parler de football, allez, on était frères.
Halftime. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, quand elle est écoutée par les ayatollahs, leur donne envie de sourire et de prendre dans les bras et de jouer au foot
et
de se faire la coupe de Roberto Baggio.
Et de devenir tous frères avec même les Occidentaux impies. Culture populaire du jeu vidéo et du football, on y reviendra dans cette deuxième partie, notamment avec des enjeux poétiques et résistants. Nos invités s'appellent Pierre Giner et Didi Riva.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec notre avant-centre sur le front de l'actualité culturelle, Zoé Sfez.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Bonsoir Zizou Sfez. Mais c'est moi. Pardon. Foin, on l'a tellement fait.
Foin d'hymnes nationaux et pourtant musique avec vous Zoé Sfez ce soir puisque vous consacrez votre dossier à Naïve, la maison d'édition musicale, mais aussi surtout le plus important label indépendant dans ce domaine. Créé en 1997, Naïve a toujours été fragile sur le plan financier. Elle a finalement été placée en redressement judiciaire vendredi dernier, un placement qui est, semble-t-il, le fruit de la crise de l'industrie du disque, mais peut-être aussi la conséquence d'une gestion particulière de cette entreprise. La question se pose alors que plusieurs labels indépendants ont dû fermer ces dernières années.
Oui, alors Naïve, il faut le rappeler, c'est un label extrêmement reconnu dans différents domaines puisqu'il a été créé en 97 par le producteur français Patrick Zelnick, ancien ponte de Virgin, lui-même qui a été musicien à ses heures. Elle a un catalogue classique extrêmement important, c'est près de 25% de son catalogue, fait figure de défricheur vraiment dans ce domaine, mais aussi dans celui du jazz et puis du côté de la pop, de la chanson française. Naïve a compté par exemple Benjamin Biolay et évidemment Carla Bruni sur son catalogue. Elle s'enorgueille aujourd'hui de vraies étoiles montantes comme celle qu'on aime beaucoup, Jeanne Haddad. Son fondateur Patrick Zelnick estime que c'est la spécificité, l'audace du label qui le met aujourd'hui, en période de crise, en difficulté, même s'il se veut plutôt optimiste.
Ça traduit la difficulté dans ce marché et cet environnement d'être sur, ça peut paraître prétentieux, mais le modèle de Naïve, c'est le développement culturel durable. Mais ça a un coût, la diversité culturelle, et surtout la pérennité. Et nous, on développe des artistes sur le long terme. On est vraiment à contre-courant du marché. On est peut-être le label européen qui investit le plus dans la création, parce qu'on investit beaucoup en classique, hein, qui représente un quart de notre chiffre d'affaires. Compte tenu des difficultés de l'environnement que tout le monde connaît, un marché physique qui décroît rapidement, trop rapidement et un marché numérique qui ne se développe pas assez rapidement non plus. Voilà. Alors, le redressement judiciaire, il faut retenir plutôt le mot redressement plutôt que judiciaire, parce qu'on s'est placé sous la protection du tribunal de commerce. On a déjà un acquéreur potentiel. Non seulement on a un acquéreur potentiel qui va injecter de l'argent dans la Naïve et nous permettre de reprendre nos investissements, et en plus, je reste majoritaire du capital et BTG.
Il se trouve, Zoé, on se pose aussi la question de savoir si la crise du disque va emporter d'autres labels indépendants. On pense par exemple au label Atmosphérique qui a fermé boutique l'année dernière.
Oui, alors à l'entendre Patrick Zelnick, en fait, c'est quasiment impossible d'avoir une démarche audacieuse aujourd'hui sans finalement passer à la trappe dans ce contexte de crise. Alors je vais interroger Jérôme Roger, il dirige l'UPFI, l'Union des producteurs français indépendants de musique. Il se dit, alors lui, évidemment, très attristé et plein d'espoir pour Naïve, mais il rappelle que quand même, la situation des labels indépendants est compliquée, mais que certains ne s'en sortent pas si mal que ça, en tout cas pas tous.
Il est évident que les difficultés que traversent un certain nombre de labels indépendants s'inscrivent dans le contexte de la récession du marché de la musique enregistrée, hein, puisque pour l'instant, la courbe de progression du streaming musical ne permet pas, et loin s'en faut, de compenser l'hémorragie des revenus liés à la baisse des ventes de CD qui est devenue structurelle. D'où la disparition d'un certain nombre d'entreprises, comme par exemple Atmosphérique, qui était un très beau label français, qui avait un certain nombre d'artistes comme Louis Chédid, etc. Alors, cela étant, les indépendants qui ont résisté à la crise sont ceux qui ont réussi à développer un modèle économique basé sur la diversification de leurs activités. Aujourd'hui, un producteur qui ne fait que de la musique enregistrée est dans une impasse économique. Donc il faut développer, se diversifier autour de l'édition musicale. Et puis les producteurs se sont également diversifiés vers le spectacle vivant, l'exploitation de salles comme Because Music, qui a pour artiste notamment Christine and the Queen et bien d'autres. Ce type d'entreprise qui se porte plutôt bien a réussi à se diversifier dans toute une série de métiers.
Alors, que s'est-il vraiment passé pour Naïve, Zoé, puisque cette entreprise a tout de même reçu de nombreux soutiens financiers ces dernières années?
Oui, alors, puisqu'effectivement, la difficulté pour se diversifier, pour survivre, c'est effectivement d'avoir des crédits, mais de plus en plus, il y a des crédits d'impôt. Et alors, il faut lever des capitaux, mais Naïve, est-ce qu'elle est vraiment bien gérée? La question s'est posée. Plusieurs papiers parus dans la presse ces dernières années l'ont interrogé, notamment l'un dans Rue 89, paru en 2012, basé sur le témoignage de plusieurs anciens employés qui dénonçaient le salaire trop élevé des cadres de cette entreprise qui est aujourd'hui à 52 salariés. Et surtout qui rappelait que le label a reçu de nombreux soutiens, tous ceux que reçoivent évidemment les labels indépendants, mais aussi de grosses injections d'argent de la Caisse des dépôts et consignations, vous savez, cette caisse qui investit au nom du pouvoir public, un soutien de plusieurs millions d'euros, et qu'il existe aujourd'hui effectivement des crédits d'impôt. Alors quand j'ai demandé à Patrick Zelnick pourquoi certains s'en sortaient sans moins de soutien et que finalement lui, moins bien, voici ce qu'il m'a répondu.
La raison est simple, peut-être je suis trop ambitieux, moi je suis vraiment un producteur, je prends des risques. J'ai hypothéqué mes biens personnels pour soutenir Naïve. Et je ne mets pas la pression sur les artistes pour sortir leur album avant Noël s'ils ne sont pas prêts. Je respecte la liberté artistique. Alors bon, c'est pas très normal d'être sanctionné parce qu'on a créé un catalogue connu dans le monde entier. Voilà, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai demandé rendez-vous à la nouvelle ministre de la Culture récemment et qu'elle n'a pas jugé bon de me recevoir. Il faudrait créer un fonds d'investissement pour les PME culturelles qui soit adapté à leur économie, ce qui n'est pas actuellement. Les banquiers n'accompagnent pas une entreprise comme Naïve. Voilà, sur la porte de mon bureau, il y a une très belle photo de Beethoven avec une citation de Beethoven qui dit « Ça leur plaira bien un jour ». Moi, je travaille comme ça. Alors, peut-être je suis un rêveur, peut-être j'ai pas le sens des réalités, mais je vous assure que Naïve existe depuis 16 ans et continuera à exister.
Voilà, Patrick Zelnick qui assure, eh bien, qu'il n'y aura pas, comme c'est souvent le cas dans les redressements judiciaires, des appels d'offres pour trouver des repreneurs, puisqu'il a un investisseur, dit-il, et que dans les 2 ou 3 semaines à venir, eh bien, on aura des nouvelles de cet investisseur et donc de nouveaux programmes pour Naïve.
Place aux brèves. Zoé, un engagement de l'État dans le contexte actuel pour soutenir les lieux de la culture.
Oui, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a annoncé une dotation supplémentaire de 7 millions d'euros en faveur de ce fameux fonds d'urgence pour le spectacle vivant qui avait été mis en place à la suite des 13 novembre dernier. Et 7 millions qui viennent se rajouter donc aux 7 millions déjà promis. Fonds qui sera géré par le Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz, le CNV, qui vise donc à compenser la baisse de fréquentation et à aider les salles de spectacle à renforcer leur sécurité. Après les attentats, il a déjà aidé plus d'une centaine de structures, indique la ministre.
Le concert prévu place d'Enfer Rochereau lors de la fête de la musique le 21 juin prochain est annulé en raison de la mobilisation importante des forces de sécurité intérieure pour la protection des stades.
Le concert a fait l'objet d'un avis défavorable de la préfecture de police après une étude du dispositif de sécurisation nécessaire au bon déroulement de cet événement, indique aujourd'hui son organisateur. C'est la préfecture qui a justifié ça, donc par la mobilisation importante des forces de sécurité déjà dans les stades. 12 000 personnes étaient déjà attendues dans ce concert où devait se produire notamment Radio Elvis et Cotton Claw. Je rappelle qu'à Marseille, déjà, la fête de la musique a été décalée au 23 juin pour les mêmes raisons, pour éviter de mobiliser les forces de l'ordre qui, le 21 juin, sont déjà très mobilisées puisqu'il y a un match dans la cité phocéenne.
MFP, la filiale de production interne de France Télévisions, développe un nouveau feuilleton quotidien localisé à Montpellier dans sa région.
C'est Thomas de Matteis, le producteur artistique de Plus belle la vie pendant 6 ans chez Tel France, qui est à l'origine du projet. France Télévisions n'a pas indiqué sur quelle chaîne ce fameux feuilleton sera diffusé, mais il devrait aboutir, nous dit-on, dans les 18 mois. C'est le plus gros projet pour MFP, cette filiale de la production de France Télé, donc qui produit des projets comme Alex et Hugo avec Samuel Le Bihan ou l'émission Le Monde de Jamy, mais aussi le Téléthon.
Merci Zoé. On vous retrouve pour le disque du jour tout à l'heure. Retour avec nos invités Gigi Riva et Pierre Giner. Mais juste avant, un petit peu de musique pro-foot.
Ping-pong. La culture sans limite.
Interdit de jouer au foot. Interdit de jouer au foot. Interdit de jouer au foot. Au boulot. Au boulot, interdit de jouer au foot, interdit de jouer au foot, interdit de jouer au foot, au boulot, au boulot.
Contre la tyrannie anti-foot, les Salut C'est Cool se sont engagés pour que tout le monde ait le droit de jouer au foot au bureau. Salut C'est Cool, ce sont des anciens étudiants des Beaux-Arts, vous les avez choisis, Pierre Giner, pour cette émission. Avec ce titre interdit de jouer au foot, vous faites donc cette installation Soccer Party Club, une sorte d'utopie artistique où l'on joue et l'on voit jouer, c'est en ce moment la Villette à Paris. Vous fabriquez aussi des jeux vidéo. Alors j'ai envie de vous demander comment... Puisque vous le comparez au cinéma, entre autres, le jeu vidéo, comment est-ce que pour vous, c'est devenu une arme un petit peu de contre-imaginaire ? C'est-à-dire, vous ne laissez pas simplement à l'industrie du jeu vidéo le soin de raconter les histoires.
Moi, j'ai l'impression que c'est la même question que, que celle dont il était question à propos de l'économie de la musique tout à l'heure. Il y a une sorte de... Quand on s'intéresse aux médias, finalement, ou aux objets médiatiques, on est toujours pris entre une sorte d'industrie et de la création indépendante. Je pense que les artistes sont des créateurs indépendants et après il y a des industries de la diffusion. Voilà. Dans le domaine du jeu vidéo, moi si j'en ai fait, parce que j'en fais pas en ce moment, mais je fabrique des objets inspirés du jeu vidéo, et parce que le jeu vidéo c'est pas seulement, il y a sans doute désormais quelque chose qui est derrière le jeu vidéo, ayant été intégré depuis 40 ans par des joueurs, ayant fabriqué une culture, ayant produit des gestes, des syntaxes, il y a autre chose à produire derrière, mais ce qui est intéressant dans le domaine du jeu vidéo, c'est vraiment une sorte de culture incisive qui permettrait, en intégrant le monde aujourd'hui, de le raconter autrement et au plus près. Et au plus près de son utilisateur impliqué à l'intérieur. Il y a des jeux politiques, il y a toutes sortes de jeux finalement, il y a des jeux très créatifs. Il y a des jeux pas créatifs au sens de la créativité industrielle, hein, mais qui inventent vraiment des formes.
Un exemple peut-être, est-ce que vous accepteriez de revenir sur l'un des jeux que vous avez créé, par exemple celui que vous avez créé suite aux événements du World Trade Center en 2001 ?
Eh ben, c'était juste un détournement dans ces événements. Il y avait un terroriste qui n'avait pas pu participer aux événements, quelqu'un qui s'était entraîné, Zacharias Moussaoui, et il avait été dans des écoles de pilotage juste pour apprendre à décoller. Et il voulait pas apprendre à atterrir. Et du coup, moi j'ai confié ce scénario à une boîte de jeux vidéo qui a produit cet avion. Cet avion, ce Flight Simulator, mais pour lui. Et qui est un avion finalement sans terrain. Et qui est un avion qui à la fois fait très peur et est très beau. Et il est pris entre ces deux aspects. Il a une météo, on peut le faire voler, il plonge, il se relève, et il ne tombe jamais, mais en même temps, il est effrayant.
Gigi Riva, avec vous aussi, si on parle non pas du jeu vidéo mais du football, on a affaire à un sport, à une industrie et à un art qui à la fois fait très peur et qui à la fois est très beau, puisque le côté tragique, effrayant, effroyable du football dans votre essai publié au Seuil, le dernier penalty, histoire de football et de guerre, c'est comment le penalty manqué par Farouk Hadžibegić en 1990 dans la Coupe du Monde, eh bien accompagne l'embrasement des Balkans qui va durer plus d'une dizaine d'années, mais il y a aussi le côté très beau, vous nous en disiez quelque chose tout à l'heure sur voilà, l'innocence ouais. du football. Il y a d'ailleurs cette très belle citation où vous dites que à propos du foot, on lui pardonne les fautes, les revers, les erreurs, parce qu'en échange de cette passion impérissable, on obtient l'impossible, l'illusion de rester un enfant. Ouais. C'est une belle définition de ouais. ce qui pousse les gens à jouer au football, un sport où il y a à la fois une syntaxe et des gestes, comme disait Pierre Giner, et chez vous aussi, le journaliste, l'écrivain, l'essayiste, il y a une poétique du foot. Et à ce propos, j'aimerais que on s'arrête non pas sur un jeu, mais peut-être sur un geste. Il y a ce fameux geste de Safet Susić qu'on appelait Rocky dans cette ouais. équipe de Yougoslavie. Vous pouvez nous parler de ce geste?
La kichma, qui est un mot qui est pratiquement intraduisible, on dit comme ça en français, même en italien et en français. C'est-à-dire, c'était un mouvement qu'il faisait sur le terrain quand il jouait à Sarajevo. Après ça, il est venu jouer au Paris Saint-Germain. Il a été nommé comme le plus grand joueur du Paris Saint-Germain dans toute l'histoire. Maintenant, il faut voir avec Ibrahimovic si quelque chose va changer.
Vous vous rappelez qu'il a des origines balkaniques, lui
oui,
aussi.
Oui, bien sûr, aussi. Ibrahimovic, c'est clair qu'il est bosniaque aussi, d'origine. Mais qu'est-ce qui se passait à Sarajevo quand le match était, par exemple, 0-0? Match nul et c'était un quart d'heure à la fin du match. Tout le public, il commençait à dire « Kichma, Kichma, Kichma ». Il se levait pour dire « Kichma ». Et alors, Susić, il était obligé de la faire. Mais qu'est-ce que c'est la Kichma? Que la Kichma, c'est un mouvement du corps qui fait pousser de côté le défenseur et il s'en va élégamment vers la porte.
Alors, vous nous le mimez avec le corps, là. C'est une ondulation
oui,
de la colonne vertébrale.
Une ondulation
vertébrale.
Du corps, de la spina
dorsale. Colonne vertébrale.
De la colonne vertébrale, avec qui le défenseur se détourne un peu parce qu'il comprend pas si Susić il allait à droite ou à gauche avec le ballon. Et certaines fois, quelque chose est tombé sur le terrain parce qu'il n'a pas compris le mouvement et il part pour aller à faire un but. Voilà. Mais Susić, dans le livre, il me dit aussi, vous savez...
Parce que vous avez rencontré tous ces grands joueurs de l'équipe de Yougoslavie de 1990.
Oui. Dans les derniers deux ans, j'ai rencontré 15 des 22 joueurs de cette équipe. Susić, c'est un d'eux. Il était l'entraîneur de Evian. Quand je l'ai rencontré, et il m'a dit, vous savez, c'est vrai que la kichma c'était beau de la faire, bla bla bla. Mais quand je suis devenu un vieux joueur, j'ai compris une chose, que c'est un peu un bêtisme contre le défenseur. Et alors, quand je suis devenu plus sage, je ne l'ai pas fait. Je m'ai arrêté à de la faire parce que c'était comme faire une blague contre mon défenseur. Voilà.
Gigi Riva, vous nous parlez de la kichma, cette espèce de ouais. danse tactique ouais. un peu fourbe. Hein. Ouais. Mais je voudrais revenir sur un autre geste, avoir votre regard sur ce geste qu'on peut qualifier peut-être d'historique. C'est celui de Predrag Pašić qui décide justement au moment du siège de Sarajevo, alors que les bombes fusent partout et qu'il est appelé par un autre club. À l'époque, on lui propose d'être entraîneur à Stuttgart. Ouais. Il a une porte de sortie dorée et lui, il va décider de rester, de monter ouais. une école d'entraînement pour les joueurs. Quel regard vous avez aussi sur ce petit acte de résistance?
La Buba Mara, elle s'appelle, cette école de football pour les jeunes. Pašić, il a eu une intuition extraordinaire. Et pas seulement lui, en vérité. À Sarajevo, il y a eu beaucoup de personnes pendant le siège qui ont pensé que la forme de résistance, la meilleure à l'agression, c'était de faire les choses quotidiennes. Que la chose qui manquait en plus, c'était la normalité. J'ai connu, par exemple, une femme qui s'appelle Kanita Focak, qui avait décidé d'avoir, pendant le siège de Sarajevo, une école de bonnes manières pour les enfants. Et moi aussi, je me rappelle très bien que toutes les fois que je... Parce que j'avais de la chance, si je compare avec les habitants de Sarajevo, parce que je pouvais... tourner en Italie, retourner pour des périodes à Sarajevo et blablabla. Et quand les femmes de Sarajevo me demandaient, je demandais qu'est-ce que vous voulez comme cadeau quand je reviens, elles ne me disaient pas Le Pen, quelque chose à manger, tout ça, mais elles me demandaient un parfum. Pourquoi ? Parce que nous sommes bien éduqués et urbaines comme vous en Europe.
Même en guerre.
Pierre Giner, guerre. Vous êtes mal élevé, vous promouvez la culture du jeu vidéo. Est-ce que vous êtes attentif pour terminer sur un beau geste, comme dans une partie de football ?
D'abord, on ne peut pas être bien élevé tout le temps.
Voilà, mais parlons d'un mot, peut-être si vous voulez bien, du corps. Et des gestes, des joueurs de jeux vidéo qui ont des tablettes ou des manettes d'ailleurs dans votre installation.
En fait, c'est vrai que c'est un glissement du geste du corps vers les mains quand même. Et où on rejoue.
Ce qui est fautif la plupart du temps au football. Rappelez.
Voilà, exactement. Et on ne devrait pas avoir le droit. Mais on a ce droit. Et on regarde ou on se regarde jouer. Moi j'avoue que et surtout dans l'évolution des jeux aujourd'hui. Et avec la personnalisation des joueurs, des jeux qui sont informés par énormément de données, et où les joueurs, bon...
Les plateformes, on regarde les joueurs jouer aussi.
Voilà, où on regarde les joueurs jouer, on joue tout ensemble, on est dans la peau d'un joueur qu'on a choisi, on construit ses équipes, et en fait, on se met à investir ce corps, et même sans doute à le surinvestir, lui-même étant informé d'une énorme information. Et après, il y a un autre cas, il y a un cas particulier juste que j'aurais évoqué, c'est ces joueurs qui eux-mêmes sont dans les jeux et qui sans doute se font jouer. Moi, j'avoue que j'aimerais les voir dans les vestiaires, et en se disant, peut-être je pourrais me changer, et peut-être en choisissent-ils un autre, je ne sais pas.
Nous sommes entrés dans les arrêts de jeu. Zoé Sfès vient de faire son retour sur le terrain.
Peut-être
plutôt comme au basket.
Hein. Je suis obligée d'arrêter le jeu.
Vous avez le droit de sortir et de rentrer plusieurs fois.
Dimitri Payet lorsqu'elle a la main sur la manette. Zoé Sfès.
Je suis Dimitri Payet. Enfin, je suis Dimitri Payet. Je viens juste vous annoncer la sortie d'un nouveau tube. Alors justement, peut-être le tube de 7 euros. Un tube guère rafraîchissant. Hypnolove, un trio kitsch qu'on connaît bien. On entend dans le nom que c'est kitsch. Pan européen justement. C'est très très adéquat. Un Portugais, un Allemand, un Français qui fabrique depuis dans la discrétion, le début des années 2000, des tubes à succès assez efficaces. Il y a eu Mademoiselle en 2005, que moi j'aimais bien, Winter in the Sun il y a 2 ans. Et leur dernier EP, leur dernier single, s'appelle La Piscine. Il invite la chanteuse du groupe L'Impératrice à chanter dessus et nous offre une plongée estivale dans l'insouciance des années 80 du fluo pour qu'on croit presque que c'est l'été. Sexy, la
c'est
piscine.
Presque de la disco italienne.
C'est de la
pour
disco italienne.
Gigi Riva.
Presque. C'est donc le nouvel EP d'Hypnolove. Il est donc disponible depuis fin mai. Et donc Flore, la voix de cette chanson, qui est donc la voix aussi du groupe L'Impératrice, est en tournée cet été. Prochaine date, c'est à la Philharmonie le 8 juillet avec un autre groupe qu'on aime bien, Bagarre.
Merci Zoé. Donc c'est vous notre impératrice de la musique. Et on vous retrouve demain pour voilà, une nouvelle étape de votre règne.
Ping-pong.
Time up.
C'est déjà fini.
Merci beaucoup.
Et pas de temps additionnel, les amis.
Absolument. Et voilà, mais vous avez remporté haut la main. Vous êtes qualifiés tous les deux, allez. Merci Pierre Giner et Gigi Riva. Pierre Giner, donc, votre Soccer Party Club, c'est dans le cadre de Foot Foreign, votre installation dans le cadre de cette manifestation. On peut aller sous et hors de la grande halle de la Villette jusque dans le parc pour s'égayer. Vous, c'est à découvrir du 5 au 10 juillet, donc à la Villette à Paris. Quant à vous, Gigi Riva, la publication en français de votre dernier penalty histoire de football et de guerre, c'est au Seuil.
Le ping-pong est un sport radiophonique qui se pratique en équipe. Et quelle équipe à la rédaction? Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Alex Dong et Jacques Hubert.
Mais qu'en sera-t-il demain, Mathilde?
Demain, récit viscéral et théâtre bipolaire avec deux femmes dans la tourmente, Loubna Abidar et Émilie Incerti-Formentini.
Et tout de suite, tout aussi viscéral.
Et tourmenté.
Et tourmenté. Et amateur du beau jeu, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.